Le masque et la plume de l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon pour un masque et la plume consacré à la 72e édition du Festival d'Avignon avec les trans de la critique. J'ai nommé Fabienne Pascaud de Télérama, Armel Elio du Figaro, Vincent Josse de France Inter, la Jacques Nerson de l'Obs et Gilles Costaz de Politis, une édition qui se déroule jusqu'au 24 juillet, présente 47 spectacles et est placée, vous le savez, sous le signe des singularités et du genre. La différenciation homme-femme est obsolète, l'humanité n'est pas double, elle est une, ainsi déclarée. Le patron du festival, Olivier Pie, aux Inrecuptibles. Bah, d'abord, d'emblée, qu'est-ce que vous pensez, vous, les critiques de cette thématique du genre, et puis plus généralement, de cette première partie de début du Festival d'Avignon, Fabienne?
Moi, je trouve que cette thématique était courageuse et à assumer.
Courageuse.
Oui, parce que c'est bien d'oser parler de ce type de sujet qui fâche d'habitude, qui trouble, qui agace. Là, ce qui m'a étonnée, je dois dire, c'est que ça ne suscite pas davantage polémique. Il y a eu le feuilleton de David Bobet, qui est tous les jours au Jardin Sécano à 12h, qui a quand même des propositions assez iconoclastes et insolentes sur le domaine du genre, et tout le monde applaudit à tout rompre. Alors, il y a comme un décalage entre ce que tout le monde applaudit à Avignon et ce qui fait tellement contestation dans la société française. Est-ce qu'on est ici dans le politique politiquement correct, mystère, mais en tout cas, tout le monde est d'accord à Avignon. Donc c'est un peu troublant,
les
ça,
autres,
cette absence de polémique.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette thématique, Jacques ?
Moi, je trouve que ça ne fait pas polémique parce que ça fait très longtemps qu'on en parle. Et c'est plutôt même un sujet à la mode.
C'est
pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. Hein. Ce n'est pas négatif, ce que je dis. Mais des polémiques ici à Avignon, sur le genre, je ne vois pas pourquoi. En plus, tous les spectacles n'en parlent pas. Ce n'est pas vrai. Quand on dit qu'Iphigénie parle du genre, non, je suis désolé.
C'est pas vraiment ça. Olivier Pie
d'Iphigénie. Oui, c'est ça. Mais on a le droit aussi de ne pas être tout à fait d'accord.
De toutes les manières, on peut interpréter à peu près tous les spectacles.
Oui, à ce moment-là,
sous
oui.
Le signe du genre. Hein,
oui, oui.
Armel, Vincent, Gilles.
Oui, et puis l'art du théâtre lui-même s'est beaucoup appuyé sur le travestissement, sur les hommes qui jouaient les femmes qui se travestissent. Donc, au fond, arriver à la thématique du genre, ça n'a rien d'étonnant. Moi, ce qui m'apparaît, maintenant que je suis là depuis pas mal de temps, c'est qu'elle est effectivement là. Lorsqu'il avait dévoilé le programme en mars, ça me paraissait partir dans tous les sens, mais ne pas être clairement posé. Or, il y a vraiment des artistes dont c'est la question fondamentale, à travers d'autres problématiques du monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus intéressant, chez Milo Rao ou chez Gurshad Shaiman, par exemple.
Alors, sachez qu'on va en parler ce soir, mais aussi dimanche prochain. Vincent ?
Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme thématique. Ça permet d'amener des choses et des personnes sur des scènes.
Tu penses à quoi ?
Qu'on ne voit pas tous les jours. Eh bien, on peut voir des handicapés qui jouent du théâtre. Moi, je trouve ça magnifique. On en parlera tout à l'heure. On peut voir des questionnements sur la place des femmes dans la société. On peut voir des personnes qui viennent témoigner. Et je trouve que parler du genre, c'est aussi permettre une variété de genres théâtraux. On a des formes extrêmement différentes. Et j'arrive toujours au théâtre ici, cette année à Avignon, avec beaucoup d'appétit et curiosité.
Mais pourquoi ça ne fait pas plus débat ? C'est ça qui est curieux.
Je pense que David Bobet a eu peur d'un débat, notamment avec les catholiques traditionnalistes. On va se réjouir plutôt qu'il
n'y
ait pas de débat.
Mais où sont-ils ? Pourquoi ne manifestent-ils pas ?
Chez Bobet, c'est beaucoup plus varié que le genre même. Il a fait hier les Molières. C'est pas si strict que ça, sa problématique. Il a fait les femmes qui se sont volées leur...
Petite parenthèse, hier soir... Juste avant la présentation de Thieste, hier soir, donc 13 juillet, les femmes manifestaient, jugeant que leur présence, aussi bien pour les mises en scène que sur la scène, était trop minoritaire par rapport à la présence des hommes.
Ça prouve aussi que le public d'Avignon et le public du théâtre est ouvert et qu'il est prêt à entendre plein de propositions. Moi, ça me semble plutôt positif. Ça ne m'inquiète pas comme toi, Fabienne.
Ben si, parce que moi, je me dis qu'il est en décalage avec la société française. Quoi. Mais tant mieux s'il est plus intelligent, si vous êtes tous plus intelligents.
J'ai pas dit ça, plus ouvert, me semble-t-il, oui.
Gilles ?
Oui, moi, je vis ça comme un vrai bonheur, ces spectacles sur le genre et sur les différences, parce que on sent une évolution de la société, contrairement à ce que dit Fabienne, qui est merveilleuse. C'est-à-dire que les spectacles qui parlent de choses très délicates sont suivis par un public attentif, formidable, qui applaudit debout. Je crois qu'on est peut-être dans un microcosme, mais ce microcosme d'Avignon est un microcosme extrêmement tolérant et humain.
C'est l'entre-soi, il suffit d'aller dans la vraie vie.
Non, mais ça me fait énormément plaisir, mais pas du tout. C'est des tas de personnes qui viennent de toute la France et c'est magnifique.
Allez, on commence cette émission avec Thieste, la tragédie de Sénèque, mise en scène dans la cour d'honneur du Palais des Papes par Thomas Joly, 36 ans, vous le savez, qui a été révélé au Festival d'Avignon avec, je le rappelle, un Henri VI qui, dans mon souvenir, durait 17-18 heures, voire 19 heures. Thieste qui se joue donc jusqu'à ce soir, 15 juillet, avec Thomas Joly, tout de jaune poussin vêtu dans le rôle de l'effrayant Attrée. Damien Avis en Thieste, Éric Chalier, Emeline Frémont, Annie Mercier, Charline Poron, Lamia Regragui, la maîtrise populaire de l'opéra comique, la maîtrise de l'opéra Grand Avignon, pour une tragédie, vous le savez, très violente, pour ne pas dire sauvage, où Attrée se venge de son frère jumeau, Thieste, qui a séduit sa femme, qui s'est emparé du bélier d'or, et donc il se venge en lui servant à son insu, rien moins que ses enfants, cuisiner à dîner, le cannibalisme ajoutant à l'infanticide, et le gigantisme d'ailleurs du décor, qui est assez impressionnant, il faut dire, à une mise en scène très kitschissime. Ce plat consistant, est-ce que vous l'avez, qui a d'ailleurs été diffusé, je crois, à la télévision,
oui.
Est-ce que vous l'avez goûté les uns les autres? Allez, je pose la question. Vincent.
Grand bonheur que grand ce bonheur. Spectacle. Oui, grand bonheur. Je suivais en sortant deux adolescentes avec leur grand-mère et elles ont dit...
Ça ne se fait pas, ça. Hein.
Oui, mais on a le droit à tout cette année à Avignon. Et elles disaient à leur grand-mère... Elle leur disait, j'ai kiffé Thieste. Alors la grand-mère dit, mais pourquoi tu kiffes Thieste? Parce que c'est rock. Et effectivement, on kiffe Thieste et c'est rock. C'est rock et classique à la fois. Il est très aventureux, très audacieux. Thomas Joly, dans la cour, il invente des choses, il invente des lumières. Moi, je n'ai jamais vu la cour et les fenêtres de la cour éclairées comme ça. Le rock, il est dans le son. Il y a toujours une nappe sonore inquiétante qui contribue à faire émerger cette violence sourde et qui n'est plus sourde à la fin de Thieste. Il est dans, tu disais, le costume jaune du metteur en scène comédien, excellent comédien au demeurant, Thomas Joly, qui a un costume que n'aurait pas renié Freddie Mercury. Et puis, ce classicisme, il est aussi dans une forme d'épure. On entend comme jamais le texte dans la cour. Thieste, c'est un texte d'une violence sans nom. Je ne l'avais jamais lu, moi, ce Thieste.
Mais pour moi, c'est au-delà du violon. C'est au-delà du violon, même.
C'est tellement violent.
C'est d'une cruauté inimaginable, je pense.
Il y a tant de cruauté.
Même Shakespeare à côté, on dirait du Goldeneye.
Et on sent que l'expérience de Shakespeare l'a servi, Thomas Joly.
Pas Titus Andronicus, qui raconte exactement la même chose.
Qui reprend la même histoire.
Un cas de cannibalisme où on sert à une mère ses fils sous forme de pâté. C'est bien la même chose. Et ça a quand même beaucoup plus de talent chez Shakespeare que chez
Sénèque.
Mais non, Sénèque n'est pas le grand auteur de théâtre.
Thomas Joly le montre comme personne.
Chacun s'exprime sur cette pièce. Jacques.
Je pense que Sénèque n'est pas un très grand tragédien, n'est pas un très grand auteur de théâtre, c'est un grand philosophe, c'est vrai, mais je pense que c'est un théâtre très inférieur à celui de Sophocle, l'Euripide, enfin celui des Grecs. Et notamment dans cette pièce, tout le début où ce sont des récits, des monologues, est assez ennuyeux, et ça ne devient vraiment prenant. Et ça le devient, c'est vrai, au moment où il y a la confrontation des deux frères. Mais avant, je trouve pas ça très fameux. Quant à la mise en scène de Thomas Joly, je précise que j'éprouve la même admiration que toi pour l'acteur, que j'ai trouvé vraiment remarquable, et même, vraiment, il donne le frisson, il est d'une perversité incroyable, mais je trouve que la mise en scène est assez décorative. Cet éclairage dont tu parles, il ne sert pas à grand-chose.
Il est très beau.
C'est beau, mais c'est une beauté qui ne contribue pas au spectacle. C'est juste décoratif. Et je suis désolé, mais je ne pense pas... Oui.
Déjà.
Vous avez le droit d'aimer le décoratif. Mais libre à moi de penser que si ça ne contribue pas au spectacle, ça m'adresse moins.
Voilà. Allez, le tour de table continue, Armel.
Il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité.
C'est la traductrice.
La traductrice.
Formidable.
Voilà.
Madame
Parce
Dupont.
Que Florence Dupont, elle nous apporte sur un plateau, si j'ose dire, Sénèque. On a vu cet hiver Phèdre.
En croûte.
Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Jacques Merson. Je pense que Sénèque est un vrai tragédien, que c'est magnifique d'entendre ces grands récits. Justement, il n'y a pas de cruauté, il n'y a pas de sang, il n'y a que le récit, et ce récit nous glace. Je pense que l'arrivée de Tantale, venue des mondes souterrains comme ça, magnifique. La furie d'Annie Mercier est absolument exceptionnelle. Je trouve que Thomas Joly, il a vraiment grandi, là. Il a grandi parce qu'il s'entoure de très grands comédiens, au contraire d'autres personnes de sa génération qui n'osent pas affronter les grands caractères. Et les chœurs d'enfants, c'est magnifique.
Ah, sont très beaux.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'effets sonores, mais c'est normal. Il passe son examen de la cour d'honneur. Alors peut-être qu'il y en a un tout petit peu trop, Fabienne Gilles. C'est magnifique.
Moi, ce qui me bouleverse dans ce théâtre, c'est la filiation entre Thomas Joly et Villard, parce que c'est vraiment un théâtre de service public. Il fait admirablement entendre cette pièce, qui pour moi est magnifique, Sénèque, parce que ça montre que chacun de nous, même sans l'intervention des dieux, chacun de nous est rongé par le mal, que le frère tue le frère et que le mal est en soi, dans son propre sang. Et ça, c'est glaçant, c'est bouleversant, et c'est en écho aux guerres civiles et fratricides d'aujourd'hui. Donc tout en montant Tieste, premier siècle après Jésus-Christ, Thomas Joly trouve le moyen, même dans une ambiance kitsch, opéra rock, avec des musiciens sur le plateau, avec tout ce décorum un peu démonstratif dont il est capable, il nous fait entendre comme personne cette parole. Et ça, c'est bouleversant, c'est vraiment du théâtre qui parle à des vivants pour des vivants. Et ça, je trouve ça splendide.
Gilles.
Je reviens de dire Jacques Nerson. Il y en a marre des pensées populistes de Nerson quand même.
c'est
comme Victor Hugo. On les traite pas comme des imbéciles.
Ces
personnalités.
Encore une fois,
vous comprenez rien, Nerson. C'est magnifique.
Qu'est-ce que vous feriez sans moi, hein.
Alors pour ce qui est de la mise en scène. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. C'est comme un sprint, d'ailleurs. Ça démarre à toute vitesse et ça s'arrête sur la fin du sprint dans un élan et un renouveau tout le temps. Alors, je dirais pas que tout est complètement réussi, hein, mais c'est vrai qu'il y a les grands acteurs comme Annie Mercier ou comme Éric Chalier. L'acteur qui joue à Trèche, je trouve qu'il a une diction qui est un petit peu limite. Hein,
il a vu le trac le premier soir parce que je l'ai revu à la télé, il était bien mieux.
Mais je suis pas non plus un fan du costume jaune de Thomas Joly qui était en couverture de Télérama, je crois, Fabienne.
Oui. Exactement, mais ça donne une dimension rock.
Avec des papillons noirs.
Oui, ça c'est magnifique l'histoire.
Ça fait un peu Canary aussi.
Mais enfin bon, c'est un très beau début de festival, exceptionnel même.
Eh bien, cette sieste de Sénèque, c'est dans la cour d'honneur du Palais des Papes, ici. Au Festival d'Avignon, si vous nous prenez en cours de route, je parle aux auditeurs, vous n'êtes pas à Moscou, vous êtes à Avignon, au Festival d'Avignon, pour des débats qui sont dignes parfois de certains matchs. Est-ce qu'il y a des réactions sur cette pièce dans la création ? Elle s'est faite il y a quelques jours. Non, on passe dans ce cas-là à une autre tragédie qui est Iphigénie de Racine, mise en scène cette fois par Chloé Dabert. Ah non, avant, soyons tout à fait prescripteurs. Comme dirait Fabienne, Tieste sera visible à partir du 27 et 28 septembre au Théâtre de Perpignan. Et après, c'est une longue tournée. Vous pourrez admirer le costume jaune de Thomas Joly à Saint-Étienne en octobre, à Angers en novembre, au Grand Théâtre de Loire-Atlantique toujours en novembre. Ensuite, pour les Parisiens, ce sera la Villette du 26 novembre au 1er décembre et une tournée qui ne fait que commencer. Autre tragédie, c'est Iphigénie de Racine, mise en scène par Chloé Dabert au Cloître des Carmes. Là encore, jusqu'à ce soir, pour les Avignonnais, ce soir 15 juillet, avec Victoire Dubois dans le rôle-titre, Yann Boudot, Bénédicte Cerruti, Servane Ducor, Olivier Dupuis, Sébastien Evenot, Julien Honoré, Arthur Véret, dans cette pièce représentée pour la première fois, Jacques s'en souvient, à Versailles, c'était le 18 août 1674. Les dieux grecs exigent d'Agamemnon, en partance pour Troie, de sacrifier, et là encore un sacrifice, sa fille Iphigénie, ce qu'il va faire à l'insu de sa femme, en convoquant Iphigénie sous prétexte de lui faire épouser Achille. Iphigénie, rappelle Olivier Py, parle aussi du genre et des femmes face à la violence du patriarcat. Vous voyez que Iphigénie peut être typiquement un complément d'objet direct de la thématique de cette année. Jacques, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'ai été consterné par la mise en scène, l'absence totale d'idées réelles. La seule idée de Chloé Dabert, elle n'est vraiment pas très passionnante, c'est de faire prononcer les vers raciniens de façon, je serais tenté de dire, vulgaire, par les acteurs. C'est pas les acteurs que j'incrimine, c'est la façon dont ils ont été dirigés, mais c'est Agamemnon mais ça, devient l'adjudant très chaud.
Il faut expliquer aux auditeurs qui ne sont pas ici ce que ça veut dire que de les faire jouer de manière vulgaire.
Bah, ils disent la guerre, voilà. Par exemple.
Qu'est-ce que t'es vulgaire ?
Voilà. Et quand c'est dans la bouche du roi Agamemnon, c'est assez étonnant. J'ai effectivement eu l'impression de l'adjudant Truchot dans Le Gendarme à Saint-Tropez. Voilà. Bon, okay. C'est
Gilles,
une absence totale de talent pour moi.
Ben, j'aimerais bien ne pas être de l'avis de Jacques Nerson et défendre Claude Habert qui nous avait fait auparavant des très beaux spectacles. Donc c'est quelqu'un qui promet beaucoup. Mais là, il semblerait qu'elle ait voulu transformer Iphigénie en une espèce de comédie bourgeoise. Et les gens s'empoignent comme à la maison, et sans la transcendance, sans le fait qu'il y a des dieux, sans le fait que ce soit une vraie tragédie. Il y a vraiment un problème de pensée sur la pièce.
Fabienne ?
Oui, même chose. On ne comprend pas pourquoi elle a monté Iphigénie, et d'autant plus que les personnages masculins sont vraiment sacrifiés parce qu'il n'y a aucun acteur, pour moi, n'est bon. Les femmes s'en sortent mieux, mais pourquoi elles ont toutes le même âge ? Ce qui fait que le spectateur ne comprend pas pourquoi Clytemnestre, la mère, a le même âge qu'Iphigénie, qui a le même âge qu'Eriphyle. Donc on est un peu paumé par ce trio, et ce qui fait la singularité du travail de Chloé Dabert, d'habitude, c'est le travail sur la langue. Celle de Lagarde, de Denise Kelly. Et là, l'alexandrin ne sort pas du tout magnifié. Alors certes, ça rentre encore dans la problématique du genre parce qu'on voit une femme sacrifiée par son père, parce qu'on voit à quel point les femmes sont toujours les dindonnes de la farce et acceptent même, puisqu'Iphigénie part au massacre la tête levée et le cœur joyeux. Mais bon, bref, à part ça, je ne vois pas ce qu'elle a voulu dire.
Armelle ?
Il y a quelque chose de très navrant aussi, c'est d'avoir choisi le cloître des Carmes et de le transformer en camp militaire avec un grand mirador métallique, des filets de camouflage, un hideux décor, des costumes stupides qui n'aident en rien les acteurs.
Ça, c'est pour montrer l'actualité, Armelle, de la pièce.
C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et elle n'a pas su diriger les acteurs. Les actrices, qui sont de très bonnes actrices, se prennent les pieds dans les alexandrins. C'est terrible.
Eh bien, il nous reste Vincent.
Oui, mais je ne veux pas enfoncer davantage Chloé Dabert, mais c'est vrai que...
Ah bah plus, ce n'est pas possible, là, pour l'instant.
Si tu parles du décor, c'est hideux, effectivement. Tu as un grand échafaudage à droite, tu as l'impression que le cloître est en travaux. Les comédiens qui sont bons, on les a vus formidables ailleurs, Serban Ducor, même Yann Boudot, chez Claude Régis, était formidable. Là, on peine pour eux, parce qu'ils n'ont pas été dirigés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils jouent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de point de vue, semble-t-il, de leur metteuse en scène. Donc c'est une addition de pas mal de souffrances, et pour eux, semble-t-il, à les regarder comme ça, et pour nous, spectateurs.
Iphigénie, donc, montée par Chloé Dabert, personne ici dans le public
Pour le sauver.
Si, une intervention. Attendez, si vous voulez parler, le micro vient vers vous. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Bon, je ne m'attendais pas à moins de votre part, d'après ce que j'avais entendu. Des échafaudages dans un cloître, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Un filet militaire qui, à un moment, s'illumine de dorure, on dirait du fil d'or, personnellement, ça ne pose aucun problème. Les acteurs, bon, j'avoue qu'au début, moi, j'étais très bien placée, donc j'entendais très bien, et j'ai pensé que derrière, ça devait être difficile, et qu'en plus, la première fois, il y avait des tam-tams pendant 10 minutes. Enfin bon, là, ça échappe à tout le monde, mais c'est comme ça. Ensuite, ça s'est calmé. Et après, j'ai beaucoup aimé, justement, l'énergie que ces acteurs ont mis dans cette pièce, indépendamment des représentations préconçu qu'on peut avoir sur ce que peut être une pièce de Sénèque ou Iphigénie. Moi, je suis arrivée sans a priori et ça m'a beaucoup parlé.
Merci
de m'avoir donné la parole.
Merci à vous. Bravo d'ailleurs d'avoir courageusement défendu cette Iphigénie de Racine montée par Chloé Dabert face à l'ensemble des critiques. Sachez, vous, les auditeurs d'Inter et du Masque et la Plume, que vous pourrez voir Iphigénie, mais ça sera en 2019, février, à Gennevilliers, puis ensuite à Angers, au Célestin de Lyon en mars prochain, en Suisse à partir de la fin mars, etc., etc. Et on passe à la reprise, sous-titrée « Histoire du théâtre », un spectacle du Suisse alémanique Milo Rao, qui d'ailleurs dirige le Théâtre National de Gand en Belgique et à qui on doit des pièces, comment les appeler, performatives sur les Ceausescu, le génocide rwandais ou encore l'affaire Dutroux. Et là, c'est né d'un travail collectif après le meurtre d'un homosexuel à Liège, c'était en 2012. La reprise qui se veut et qui se montre vraiment comme une tragédie contemporaine, en prenant le spectateur à partie et en se demandant si ce théâtre doit représenter la violence du réel pour permettre ce qu'il appelle une véritable catharsis. Armelle.
Pour moi, c'est le plus grand spectacle que j'ai vu, le spectacle le plus puissant, le plus original. Oui. Et c'est toujours ça avec Milo Rao. Il faut bien dire qu'il a une pensée, il renouvelle complètement la manière de faire du théâtre. Bien entendu qu'on peut imaginer un autre théâtre et aimer et être ému et recevoir un autre théâtre, un théâtre plus simple, si j'ose dire, plus classique. Là, il travaille comme un documentariste, comme un journaliste, toujours au départ.
Oui, parce que l'affaire est tout à fait vraie.
Et il arrive à croiser en 1h40 tellement de thèmes, tellement d'histoires, en utilisant à la fois des images d'archives, des moments où les acteurs sont filmés en direct, ou des moments où la vidéo est diffusée et les acteurs rejouent la scène légèrement décalée sur le plateau. Avec très peu de monde, hein, ils sont 5 ou 6 sur le plateau là, avec, en incluant des amateurs qui sont tellement galvanisés par leurs camarades. Il y a à la fois un jeune magasinier et il y a peut-être l'un des plus grands comédiens d'Europe, Johan Lezen, sur le même plateau. Et tous ensemble, ils nous racontent une histoire, j'en ai la chair de poule encore, qui dit tellement notre société d'aujourd'hui, qui dit l'inculture de certains êtres, qui un beau soir assassine un jeune homme comme ça, par désinvolture, par ennui, par rejet de l'homosexuel. Bref,
oui, c'est, plus
c'est
par
une histoire d'aujourd'hui. En même temps, c'est une tragédie qui pourrait être une tragédie antique. C'est extraordinaire.
Vincent ?
C'est curieux parce que c'est un spectacle assez clivant, comme on dit depuis quelques années. Il y a ceux qui détestent et ceux qui sont emballés. Moi, je suis comme...
Ce que je lis et entends sur le spectacle depuis sa création ici est toujours enthousiaste.
Tu croises quand même des
tu parles des spectateurs.
Oui, des festivaliers qui n'aiment pas du tout. Moi, j'ai été complètement séduit. Je suis sorti en aimant à la fois plus le théâtre et plus mes camarades, les gens, etc. Je trouve que c'est quelqu'un, Milo Rao, d'extrêmement humain et d'humaniste. Qui, quand il enquête sur un sujet, enquête véritablement. Il y a certains de ces acteurs qui sont allés voir les parents du jeune homme assassiné. Il y en a un autre qui est allé voir un des bourreaux en prison. Et puis ensuite, ils se retrouvent et ils se disent, bon, page blanche, comment on raconte un fait divers pareil et comment on évite l'obscénité? Pour moi, il n'y a aucune obscénité dans cette façon de relater tout. Il y a un hyper-réalisme de folie quand même dans cette pièce, hein, jusqu'au sang sur le sol, avec un recours très intelligent et pas abusif de la vidéo, ce qui n'est pas le cas de tous les spectacles cette année. Et puis, toujours la question de, est-ce que je prends en compte le spectateur? Est-ce que je parle bien de la victime et de ses parents et de ses proches? Est-ce que je traite bien mes acteurs? On assiste même à un casting de comédiens au tout début, et ils posent des questions à chacun des comédiens sur leur rapport au théâtre, sur leur vie. Je vais reprendre ce mot, pardon, j'abuse un peu, mais c'est plein d'humanité, et je m'arrête là.
Fabienne.
Oui, moi, c'est le spectacle jusqu'à présent phare du festival qui m'a bouleversée, parce qu'en même temps qu'il nous raconte, c'est une autre des thématiques d'Avignon 2018, c'est la violence d'aujourd'hui, la violence au quotidien. En même temps que ce spectacle nous raconte un crime atroce, mais en prenant ses distances, en pensant, en réfléchissant à la représentation, comment on raconte le meurtre d'un homosexuel sur scène aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas danger de voyeurisme? Donc il nous pose toutes ces questions-là, Milo Rao, comment on raconte ça, et en même temps il nous implique sans arrêt sur nous, notre engagement de spectateur. Par exemple, il pose la question à 2 reprises dans la pièce, si un acteur se suicide réellement sur le plateau, tente réellement de suicider, qu'est-ce que nous, public, on fait? Est-ce qu'on tente de le sauver ou est-ce qu'on laisse se suicider devant nous? Donc moi, j'ai eu les larmes aux yeux par cette unité qu'il arrive, cette solidarité qu'il arrive à recréer entre acteurs et spectateurs. Eh bien, j'essaye d'aller le sauver quand même.
Ah, mais
j'attends de voir jusqu'au bout des traces
sérieuse,
sur son pas, cou.
Mais il faudrait déjà pour ça savoir que ça n'est pas un jeu. Et comme quand on est au théâtre, comme on voit des simulacres, on ne se rendrait
mais
pas compte
que c'est l'intérêt,
la réalité.
Mais c'est ça l'intérêt, Jacques. C'est qu'on ne sait pas où est le jeu.
Et donc, on ne ferait probablement rien parce qu'on croirait qu'il s'agit d'un spectacle.
Pas du tout si on voit qu'il s'étouffe.
Ça dépend.
Ça peut se jouer. Ça,
si c'est Jacques qui s'étouffe, on le laisse. Mais... Jacques, puisque vous avez la parole.
Moi, je n'ai pas été très sensible à ce spectacle, tout en admirant ses qualités techniques. Je trouve qu'il ne nous apprend pas grand-chose, au fond. On n'en retire pas grand-chose. On assiste effectivement à un crime raciste, puisque c'est du racisme. C'est des gens qui veulent casser du PD. Ils trouvent un PD à la sortie d'une boîte de nuit et ils le massacrent. Bon, qu'est-ce que ça nous apprend sur leur motivation, sur ce qu'ils ont pensé après, de ce qu'ils ont fait ?
Pas rien, Jacques, c'est ça qui est
justement,
passionnant.
Justement, il y a eu, pardonnez-moi, mais il y a eu sur Luanda, par exemple, des enquêtes faites sur les assassins.
Bah, et a fait justement
c'était
Milora,
très ou... intéressant parce qu'ils étaient eux-mêmes très surpris par leurs propres actes. Ils ne savaient pas très bien pourquoi ils l'avaient fait.
Oui,
mais là,
aussi.
Ce travail n'a pas vraiment été fait sur le plateau. Et j'assiste effectivement à un meurtre et c'est tout. Et on me laisse devant. Alors, c'est très bien fait techniquement. C'est vrai, c'est pas du tout un spectacle nul. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je le trouve pas spécialement émouvant et je n'apprends pas grand-chose.
Gilles ?
On apprend le mystère du mal quand même. Ouf. En permanence. Ouais.
Il y a d'autres auteurs qui nous le montrent.
C'est-à-dire que j'ai des réserves sur le spectacle qui ne sont pas celles de Jacques Nerson. Cela dit, je trouve le spectacle remarquable. Enfin, ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, c'est une double enquête. C'est une enquête sur ce atroce meurtre d'un musical, une enquête sur le propre spectacle qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on nous le montre comment on a monté le spectacle et comment ça s'est agencé, les rencontres avec des acteurs amateurs, des professionnels. Et ça, c'est passionnant parce que ça fait éclater comme ça la forme de l'enquête traditionnelle. Il y a quand même, alors que tout est parfait, hein, tout est fait, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi, c'est la reconstitution en fin de spectacle du meurtre, qui est quand même assez mal faite. Enfin, ça ressemble
en quoi
à...
mal faite.
Mais c'est
bricolé,
il y a cette voiture qui arrive, ces gens qui font semblant de conduire dans la voiture, c'est vraiment...
parce qu'on est au théâtre,
on est au théâtre,
mais alors,
on vient pas
c'est
ça
c'est un théâtre assez naïf. Hein.
Eh bien oui, mais il assume ça, justement.
Non, mais moi je l'assume pas.
Il raconte ça tout au début, il s'interroge sur la présentation.
Je l'assume pas comme qualité théâtrale. Cette partie-là, c'est 10 minutes de la pièce, mais je regrette que sur un tag de tel, ce niveau aussi considérable, il y ait 10 minutes qui soient aussi faibles.
C'est donc la reprise de Milo Rao qui va avoir une tournée dès le début septembre très européenne, puisqu'il sera tout début septembre à la Schaubühne de Berlin, ensuite aux Amandiers Nanterre du 22 septembre au 8 octobre, et puis à Zurich, et puis à Francfort, et puis à Rome, etc. Trans, on y revient à la thématique de cette année. Un spectacle en français, catalan, castillan de Didier Ruiz, présenté au gymnase du lycée Mistral jusqu'à demain soir, 16 juillet, qui entre vraiment directement dans la thématique du genre voulue par Olivier Py pour ce 72e festival. Des hommes et des femmes venus de Barcelone sont assignés à une identité dans des corps vécus comme une prison. Ils s'en échappent enfin, mais la société s'y oppose. Pour Didier Ruiz, trans doit changer, je le cite, une société intolérante qui a oublié de parler d'amour, ce que d'ailleurs, à leur manière, je dis bien à leur manière, proclament les Inrocks dans leur supplément Avignon, puisque j'ai pu y lire qu'un grand nombre d'artistes de cette 72e édition l'annonce, l'édifice hétéro patriarcal est voué à l'effondrement. Je ne sais pas si ça a commencé, je ne l'ai pas encore vu, mais il semblerait que ça vienne très vite, je vous préviens quand même. Fabienne ?
Moi, je trouve ça très faible. C'est politiquement très correct, encore une fois, et on est ravis.
Là, on est en plein au cœur de cible de la
thématique. On
est au cœur,
oui.
Hein.
Mais alors, il y a des transsexuels qui viennent s'exprimer, qui viennent raconter leur histoire. On a travaillé sur leur propre texte, sur leur propre aveu, leur propre confidence. Ils viennent à tour de rôle. Alors, c'est vrai que c'est bouleversant. Il n'y a rien à en dire. Ces gens ont eu un parcours tout à fait remarquable qui raconte très bien. Les comédiens, ce ne sont pas des comédiens, ce sont les vraies personnes. Donc, encore une fois, on ne peut pas en dire du mal. Mais est-ce que c'est du théâtre ? Alors là, pour le coup, ça pourrait être du théâtre documentaire, mais ce n'est pas Milo Rao qui essaye de nous interroger sur la représentation. Pour moi, c'est faible. Alors certes, on applaudit, on ne peut pas faire autrement, mais je me suis trouvée un peu prisonnière du projet même.
Gilles ?
Ah non, c'est splendide. Hein,
Mais splendide en quoi ? Où est le théâtre ? Où est le travail ? Ils s'avancent l'un après l'autre, Gilles, et qu'ils font ?
C'est un genre de théâtre qu'on voit depuis des années, des gens
qui
viennent raconter leur vie au théâtre. Moi, j'admire beaucoup, parce que c'est très difficile de raconter sa vie devant un public. C'est extrêmement difficile.
Même sans public.
Oui, et donc...
pas tant que ça.
Cela la raconte avec une simplicité et une vérité extraordinaire. Et puis c'est un texte d'amour, quoi. Ces gens-là, on les aime tous, ils sont tous formidables. Enfin, moi, j'étais dans un état de bonheur total, et le public aussi. C'est-à-dire que c'est vrai. Alors, il y a des gens qui ont une vie complètement opposée qui ont parfois une très mauvaise image, et en fait, tout, on les aime tous. C'est vraiment. Alors peut-être que c'est militant d'ailleurs.
Oui, mais, c'est un spectacle mais, qui donne bonne conscience, mais qui non, ne remet non, jamais non, en danger.
Non, non, parce que les gens pourraient crier, dire non, j'aime pas ça, etc. Et là, y a, parce que le spectacle est très bien fait, est très aimant, et donc c'est un moment important dans le festival.
Oh ben, je pense à maintenant tous se prendre la main quelques instants et
en faisant une minute de silence.
Une minute de mais silence et d'amour vrai, entre nous.
Et Jacques. Ça.
Ben, je suis assez de l'avis de Fabienne. C'est-à-dire que ce qui me navre dans ce spectacle, c'est au fond une renonciation au théâtre.
Vous l'avez pas aimé, c'est... vous, ce festival, j'ai l'impression.
Pas trop. Pas trop. Non, mais c'est... on nous dit que c'est du théâtre documentaire. À mon avis, c'est du documentaire et non pas du théâtre. Ça veut pas dire que le documentaire soit pas intéressant. Là, je partage aussi l'avis de Fabienne. C'est-à-dire que, notamment, il y a parmi les trans qui sont devant nous et qui se racontent, il y a quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement touchant, Yann de la Rosa, qui est cinéaste, je crois, oui. Et qui se raconte de façon magnifique. Et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement beau. Et j'ai été vraiment très touché par elle, par ailleurs ou par lui. Mais par ailleurs, effectivement, faire avancer des gens face au public, qui racontent leur vie. Alors, juste, les interviews sont entrecroisées. Et puis, de temps en temps, on nous fait une petite projection vidéo pour nous montrer, comme dans un kaléidoscope, des fleurs qui deviennent des graines.
Ce sont des élèves qui ont fait ça.
Oui, mais
c'est
pas, des, ben, pas
oui,
des enfants.
Ben,
hein.
C'est pas la question. Quel est l'intérêt ? Tout ça devant un voile gris. J'avoue que ça échappe à ce que j'entends par le théâtre. Et je trouve ça dommage. Le théâtre est un art très particulier. Et je trouve dommage dans un festival de théâtre qu'on dise à ce point... C'est une façon de dire que le théâtre est incapable de raconter une partie de la société. Et ça me navre.
C'est Vincent. Vrai, c'est moins bien que Sénèque, Jacques Dersan. C'est vrai. Sénèque, c'est mieux.
Vincent et Armel.
Moi, ça m'a mis un peu en colère parce que je trouve que les...
Pourquoi en colère ?
Parce que le documentaire est fascinant. Passionnant et émouvant. Vous l'avez dit, vous avez raconté quelques récits de vie. Ce sont des gens qui ont souffert, qui n'étaient pas en accord avec leur corps et qui ont été opérés, etc. Donc on a des parcours difficiles, mais surtout, ça parle du bonheur qu'ils ont à être enfin eux-mêmes. Oui. Ce n'est pas un spectacle tragique, déprimant ou cherchant à tirer l'alarme. C'est un spectacle qui montre qu'on peut être très heureux et qu'on peut décider, avec certes du courage, d'être soi-même et d'être épanoui et d'être bien accueilli aussi des autres. Parce qu'ils nous expliquent que dans leur boulot, tout va très bien, que l'une nous dit que son patron a été exemplaire. Ça, donc on a de l'énergie positive, mais on est dans un festival de théâtre. Effectivement, ça s'appelle théâtre documentaire et on doit trouver des idées de théâtre. Il n'y en a aucune. Okay. Effectivement, une pauvre projection, un peu de vidéo, un peu de musique, c'est tout. Et ils ne sont pas servis. Quand on voit le boulot de Milorao sur la réflexion de comment on amène un fait divers sur un plateau, comment on parle d'un homosexuel assassiné, et le boulot de Ruiz, c'est un travail éminemment paresseux et donc décevant.
Armel.
Ça n'est pas paresseux, c'est le projet de Didier Ruiz qui fait ce travail qu'il appelle la parole accompagnée. Il a fait ça avec des détenus hommes et femmes. On a pu voir ce spectacle d'ailleurs cet hiver à la Maison des Métallos. Moi, je connais son travail depuis très longtemps. Il n'a jamais cherché à faire du spectaculaire. Et ce spectacle, je comprends.
C'est pas du spectacle.
Non, mais je comprends vos réserves. Je comprends que c'est vrai, c'est pas du théâtre, c'est de la parole retravaillée où chacun vient lui-même témoigner, raconter comment il s'est ressenti tout de suite. Et c'est très intéressant à cause de ça aussi. Quels que soient les destins, les parcours, dès l'enfance, quelque
mais
chose n'allait pas.
Travailler, bon,
mais laisse-moi travailler. Ce spectacle a du sens, justement, au cœur d'une programmation sur le genre et sur cette traversée des murs que suppose le changement de sexe.
Nous avons vu il y a deux ans un spectacle d'une transsexuelle belge qui s'est donné
mais
au
oui,
rond-point
mais
Je danse pour toi, qui était
bien
un
sûr,
vrai spectacle.
Mais là,
une
c'est autre chose.
Avec une vraie actrice, c'était bouleversant, c'était du théâtre.
Mais là aussi, c'est bouleversant.
Ça n'est pas
là
du théâtre.
Aussi. Et on les reçoit, on est éclairé, on les comprend mieux.
Pourquoi faire du
moi,
théâtre
j'ai
comme
lu
à la
des
télévision.
Dizaines de témoignages, j'ai vu des documentaires à la télé, j'ai vu des tas de choses. J'ai des amis transsexuels.
Ah
mais
bon
là, tout, bah bien sûr, bah évidemment.
Évidemment. Non, je plaisantais, hein, mais bon.
C'est pas évident
ça passe mal.
C'est pas,
et on a des confrères et des consœurs d'ailleurs. Eh bien, je trouve que ce moment a du sens par rapport à toute la programmation qui s'étoile autour de ce petit ombilique de pure vérité.
Non, puis le mot de Joss, paresseux, c'est pas admissible. Hein. Moi, ça passe pas. Hein.
Mais c'est pourtant le cas.
C'est contraire, c'est subtil. C'est pas paresseux.
C'est le degré zéro du théâtre.
Le contraire, mais non, c'est au contraire très délicat, très savant. Encore une fois,
ça vend.
Mais oui, bien sûr. Pourquoi que c'est un travail colossal de faire ça. Ça prend des années.
Il suffit de les faire parler à un micro et de
comme
réécrire
cela.
Ce qu'ils disent.
Est
on fait ça
beau.
Tout le temps, nous.
Mais bien sûr.
Si vous ne prenez en cours de route, c'est donc, vous l'avez compris, le masque et la plume, et c'est Trans de Didier Ruiz qui va se donner en octobre à Nantes, et puis ensuite à Châtenay-Malabry. Ensuite, ce sera au Lioul et au Théâtre de la Bastille en février prochain à Paris. Allez, Ahmed revient, le spectacle itinérant signé du philosophe Alain Badiou, aussi fidèle, vous le savez, à Avignon, qu'au communisme, fidèle aussi à Ahmed, personnage récurrent de ses pièces, qui vient des banlieues et qui est joué façon Commedia dell'arte par Didier Gala. Le monde s'est durci, dit Badiou dans son avertissement, puisque le texte vient de paraître chez Actes Sud Papier. Le monde s'est durci, il faut savoir en combattre les folies oppressives et garder une distance ironique. Ahmed a bien besoin de tous ses talents pour que son ironie le protège des maléfices du temps. Badiou, Ahmed sont donc de ville en ville, de Sorgues à Boulbon, de Montfavet au Pontet, et cela jusqu'au 23 juillet. Jacques, avez-vous apprécié ce spectacle itinérant ?
Encore un philosophe qui fait du théâtre et qui, à mon avis, a tort.
Oui, parce qu'il faut, il faut préciser à nos auditeurs qu'il a écrit beaucoup de pièces.
Oui.
Il n'a pas écrit que des livres rouges, il a aussi écrit des pièces.
Et bon, ben, c'est le retour d'Ahmed. Mais Ahmed, même quand il était subtil seulement, ou quand il était philosophe, j'ai toujours trouvé que c'était pas très intéressant théâtralement. Et là, c'est assez désolant parce que je trouve Didier Gallas tout à fait virtuose. Et il fait un numéro, effectivement, de Commedia dell'arte en prenant des poses classiques de la Commedia dell'arte, en faisant des grimaces avec son masque, comme s'il disait des choses drôles. Mais malheureusement, ça ne l'est pas, à aucun moment. Alors, c'est assez désarçonnant de voir quelqu'un qui fait des blagues qui ne font pas rire. Mais personne ne riait dans la salle, je peux vous dire. J'ajoute que une de mes surprises, mais là, c'est pas le spectacle lui-même qui en est responsable, mais je suis quand même très étonné de voir que le spectacle d'Alain Badiou, qui se veut quand même à l'ultra-gauche...
Ah, vous avez compris ça.
Sera joué dans le hall d'exposition des voitures de luxe allemandes dont je ne citerai pas
Jacques,
la marque.
Vous pouvez pas lui reprocher ça.
Il
me semble qu'il y a quand même une certaine... Il me semble qu'il y a là une certaine contradiction. Si ça ne dérange personne, très bien.
Je suis de l'avis d'Armel, Jacques. Vous répétez, vous avez déjà fait ce coup-là.
Et si c'est à nouveau la même chose, je dirais toujours la même chose et je recommencerai l'an prochain.
Mais non, parce que les pièces sont pas les mêmes.
Mais tant mieux si ça touche votre milieu.
Calmez-vous. Il fait déjà très chaud. Alors en plus, si vous vous énervez... Donc,
enfin, Ahmed roule en BMW.
Voilà. Pas de marque sur le service public. Armel.
Écoutez, je suis d'accord avec mes camarades.
Pour l'instant, il n'y a que Jacques qui a parlé. Hein.
Ouais, mais je ressens les émotions. Didier Gallas, il est merveilleux. Didier Gallas, c'est Harlequin. C'est un espèce de danseur, maintenant, tellement il a presque 30 ans de plus que quand il a commencé, 25 ans de plus que quand le premier Ahmed est né, mis en scène par Christian Scaritti. Et il était jeune, il sortait à peine du conservatoire, il avait ce masque fait par Erhard Siefel, qui est le grand maître des masques.
C'est pas simplement voilà. Un comédien.
Et là, il est porteur de quelque chose qui ne fait pas rire, effectivement, qui est une espèce de conférence très oiseuse.
On enfonce les portes ouvertes.
Très oiseuse, très, oui, exactement. Et je le plains un petit peu parce qu'il est... Il est malin, il est intelligent, il a beaucoup travaillé en Asie, il est presque comme un onogata maintenant, onagata. Et il est paumé parce que le public ne réagit pas, les gens ne rient pas.
Vincent, Harry,
tu sais, du tout. J'ai comme nous tous des stagiaires ou des apprentis à la radio et ils sont assez culottés en général, ce que j'aime bien. Et ils me disent arrête de faire de l'humour de vieux, parfois. Ce qui est un peu vexant au départ, mais après tu ris.
Mais c'est pas faux non plus.
C'est pas faux non plus. Et Badiou fait de l'humour de vieux. C'est-à-dire que c'est absolument pas drôle, mais il essaie d'être drôle en permanence. Alors c'est du sous Raymond DeVos. Et on est consterné pour le comédien qui effectivement fait de son mieux et le fait bien, mais n'a vraiment rien à jouer. On peut même pas dire que c'est une pièce de gauche, de l'ultra-gauche, etc. Il est vaguement question de racisme, mais très très vaguement, alors que c'est vendu un peu comme ça sur le programme. Un petit peu de philosophie, et puis je vous dis des jeux de mots de vieux.
Fabienne ne l'a pas vu.
Non, hélas.
Gilles.
Heureusement, d'après ce que disent mes camarades.
Non, je trouve quand même qu'on est sévère avec Badiou, qui est quand même un grand penseur. Et dans ce
c'est notre Sénèque,
grand penseur
hein.
De quoi un grand penseur de Pol Pot.
Non, mais c'est un vrai.
Le feuilleton qu'il avait fait au jardin Secano avait fait courir les foules.
Oui,
à Avignon,
mais enfin,
quand
c'était
même.
Complètement ouais. Faux sur Platon. Non, arrêtons.
Il y a dans cette pièce des moments très intelligents. Il se trouve que malgré tout, c'est
il
vrai, je vous rejoins.
Il n'arrive pas à garder son sérieux, Gilles. Il vous ment.
Mais pas du tout. Mais c'est vrai que je vous rejoins dans la mesure où je trouve que cette pièce qu'on avait vue il y a 25 ans, elle nous fait rire à l'époque.
Ah bon un peu, non, pas
moi,
beaucoup.
Mais
pas
je me souviens,
beaucoup.
Moi, de l'avoir vue avec.
Mis
avec
en scène par Vitesse.
Non, mais c'est une nouvelle pièce, Gilles.
Non.
Ah si.
Non, c'est.
Ah bah oui, c'est une nouvelle pièce. Oui.
En fait, il reprend
le personnage. Est récurrent,
au début,
mais la pièce est nouvelle.
Non, parce que au début, il s'était inspiré de
oui,
Scapin. Alors
bien.
C'était
non, mais on voit bien qu'elle date puisqu'il parle de la gauche et qu'il essaye de rattraper sur Macron, mais très mal d'ailleurs, parce qu'il essaye de se moquer de Macron. Vraiment, ça, c'est, je trouve c'est dommage qu'il attaque Macron et Hollande sur
en plus,
le droit de perquisition de la police
qui
est un sujet évidemment très, très sensible, mais il en parle mal, c'est dommage. Oui, je crois qu'il y a un vrai problème d'humour, bien que c'est l'intelligence qui effectivement n'arrive pas à toucher le peuple qu'elle entend rejoindre.
Il faut croire que la philosophie et le théâtre, c'est pas toujours la même chose.
Ahmed, oui, mais le théâtre, c'est tout, Jacques. Ça peut être la philosophie, ça peut être
la danse.
Oui, c'est ça, musique. Ce qu'on veut, les trans.
Voilà. Allez, Ahmed revient, c'est Alain Badiou, et il va revenir aussi à Saint-Brieuc en novembre, à Aubervilliers en mars prochain, ainsi qu'à la Comédie de Reims en avril prochain. Juste, vous me dites, parce qu'il faudrait qu'on dise un mot du off, Grito Pelao, le spectacle chorégraphique de Rocío Molina, la danseuse de flamenco. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que c'est bien, Armel?
Moi, je ne l'ai pas vu, pardon.
Gilles?
Non plus.
Gilles n'a pas vu.
Il y a une heure plutôt intéressante où la Vincent. Chanteuse notamment est absolument d'abord très belle et ensuite a une voix exceptionnelle, mais la danseuse qui nous raconte qu'elle est enceinte, qu'elle est lesbienne, etc., enfin tout ça c'est sur le programme, finit par nous épuiser parce qu'elle est totalement narcissique. Elle est tellement égocentrique qu'on n'en peut plus de son nombril et qu'on a envie de partir. Voilà, c'est dommage. Hein.
Elle a un joli nombril pourtant.
Ah, ça c'est important, oui. On voit que vous faites de la critique de théâtre.
Elle s'aime tellement qu'elle ne nous laisse pas l'aimer, parce qu'elle le fait avant nous, quoi. Elle nous précède. Et c'est effectivement insupportable. Et puis, quand on entend flamenco, j'avoue que ça ne ressemble pas vraiment à du flamenco traditionnel, c'est vrai. C'est peut-être la différence qu'il y a entre le jazz et le free jazz. Et personnellement, le free jazz m'a toujours ennuyé.
Grito Pelao, c'est donc au lycée.
C'est pas si mal quand même, je trouve un peu dur.
Fabienne, pardon.
Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a trois femmes sur le plateau. Moi, ce qui m'a surtout fascinée, c'est vrai que c'est un peu nombriliste, mais ce qui m'a surtout fascinée, c'est le rapport mère-fille. Parce qu'il y a la mère de Rocío Molina sur le plateau.
C'est assez court, c'est
tout
début, ça.
Cette relation est assez belle quand même. Et puis, alors, c'est encore la problématique du genre, des femmes, des homosexuels, qu'est-ce qu'on montre, même si c'est parfois très agaçant, c'est vrai, mais elle a révolutionné le flamenco, Rocío Molina, donc rien que pour ça, ça mérite d'y aller.
C'est vrai.
Le off d'Avignon, c'est cette année 1538 spectacles, et contrairement d'ailleurs aux Inn, beaucoup de têtes d'affiches, parmi lesquelles Daniel Mesguy, Jean-François Balmer, Florence Pernel, Nicole Calfan, Philippe Calvario ou encore au Chêne Noir, où il présente son Avignon 68, Philippe Cobert. Le public, évidemment, qui est ici réuni à Avignon a peut-être son mot à dire, mais avant, quelques conseils et des critiques du Masque et la Plume, Gilles?
Oui, alors je donne trois très vite. La Vallée des Avalées, du Québécois Régent Ducharme, monté par Lorraine Pantal avec Sarah Laurando. Ducharme est un immense écrivain du Québec et le spectacle est à la hauteur. J'entrerai dans Ton silence de Hugo Auriot, monté par Serge Barbouchet au balcon, qui est une pièce sur l'autisme. Et effectivement, on entre dans le silence de ce personnage autiste. Et enfin, un Faust d'après Goethe, monté par le collectif 8, qui est une troupe de Nice, monté par Gaël Bogossian et Paolo Correa, un magnifique Faust au théâtre 11 Gilgamesh, Belleville.
L'off version Fabienne Pascoe.
Eh bien, moi, je conseillerais L'établi de Robert Linhart,
texte admirable.
exactement, qu'on peut voir actuellement dans le off. Je trouve que le festival 2018 n'a pas assez honoré 1968, où il s'est pourtant passé quantité de choses passionnantes, théoriquement et sur le théâtre à Avignon. Fallait, hein. Mais là, on voit la démarche d'intellectuels en 67 qui vont à l'usine, qui se déplacent et qui essayent de vivre leur vie d'intellectuels à l'usine. C'est mis en scène par Olivier Mellor. On ressent vraiment l'usine et tout ce qui s'y passe. C'est magnifique. C'est à Présence Pasteur jusqu'au 29 juillet, tous les jours à 12h50.
Et texte dont Samy Fray a fait une très belle lecture sur France Inter il y a un an ou deux ans, je ne sais plus. Magnifique lecture de l'établi de Linhart.
Exactement, je me dépêche. Je vous conseille aussi d'aller voir Qui suis-je, qui se joue au théâtre Gilgamesh-Belleville à 14h40 jusqu'au 27 juillet. C'est l'histoire d'un jeune homosexuel, un jeune collégien qui découvre son homosexualité. Il est interprété par Côme Thiolin, comédien troublant qui raconte tous les troubles, toutes les difficultés de se révéler jeune homosexuel. C'est mis en scène par Yann Dacosta, et c'est bouleversant aussi.
Le conseil du off de d'Armel.
Alors j'y vais vite. 17h30 au Train Bleu. Un jour j'ai rêvé d'être toi, par Anaïs Muller et Bertrand Poncé, deux très jeunes, très doués, et qui parlent de l'art du comédien. Au Chêne Noir, à 16h30, récréation, le retour d'Aurélien Recoin, qui était dans la cour d'honneur avec le soulier de satin, et qui revient, il fait une carrière au cinéma aux États-Unis. Il y a dans la pièce Florence Darel, Fabio Zenoni, Brice Hilleré, Alison Paradis. C'est une fantaisie autour du théâtre lui-même. Et enfin, chez Benedetto, où naquit le off, Viviane Théophilides monte un très joli spectacle, Cabaret Rosa Luxembourg, avec des chanteurs, des acteurs, une musicienne très douée.
Et je rappelle qu'on donnera encore d'autres conseils du off dimanche prochain. Vincent.
Un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Hugues Duchesne, qui est tout jeune, il a 27 ans, c'est aussi un auteur et un metteur en scène. Il se passionne pour tout ce qu'il vit, la société, la politique, il va dans les manifs, il va assister à des procès, et ensuite il en fait du théâtre documentaire avec vraiment un œil, quelqu'un qui a le sens du croquis, c'est aussi un auteur politique. Ils sont très drôles, lui et ses camarades, ils se sont connus à la Comédie Française dans le cadre de l'Académie de la Comédie Française, et il propose un spectacle sur la première année de Macron au pouvoir. On en aura 5 autres, parce qu'il va suivre avec son œil tout ce que Macron fait ou ne fait pas. Donc il y aura d'autres spectacles. Ça s'intitule « Je m'en vais, mais l'État demeure ». C'est au Train Bleu à 11h45. Et il raconte aussi l'affaire Pi. Vous vous souvenez quand Olivier Pi a été démis de ses fonctions de directeur de l'Odéon et que Luc Bondy a été nommé
par
Sarkozy et Mitterrand. Et ça, ça s'appelle « Le roi sur sa couleur ». C'est très drôle et très juste aussi. C'est le lundi à 16h30. Donc les deux spectacles sont au Théâtre du Train Bleu à Avignon.
Jacques. Deux conseils. Le premier, ça s'appelle « La femme de ma vie ». C'est une pièce d'Andrew Payne, un monologue, qui est joué par un acteur remarquable, qui est Robert Plagnol. Et ça se joue à 18h45 à l'Hôtel de l'Europe, dans un salon de l'Hôtel de l'Europe. C'est remarquable. C'est un auteur très intéressant, Andrew Payne. Et puis le deuxième conseil, alors là, ça se joue au Petit Louvre. C'est à partir de la correspondance amoureuse de Simone de Beauvoir. Ça s'appelle « Pour l'amour de Simone ». Ce sont des lettres entrecroisées de Jean-Paul Sartre, de Jean-Laurent Bost et de Nelson Algren. Enfin, et surtout les lettres de Beauvoir à ses trois amants. C'est tout à fait remarquable. C'est donc au Petit Louvre. Ça se donne à 18h50. C'est un spectacle que je recommande vivement.
Et les doigts se lèvent pour conseiller Madame dans cette cour de l'Université d'Avignon. Oui, madame.
Oui, bonjour. Je vous conseille absolument une pièce engagée, féministe, drôle, bien enlevée, qui s'appelle « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». C'est une pièce belge qui se joue au théâtre Épicène à 18h05. Il y a 4 filles géniales qui interprètent les féministes, le combat des féministes depuis le début du siècle, du XXe siècle jusqu'à nos jours, en partant des suffragettes anglaises qui se battaient pour le droit de vote. Après, il y a aussi les féministes en 70 qui se battaient pour l'avortement. Après, Malala qui se bat pour l'école. Et puis, les femmes qui se battent contre les religions, qui sont machistes et misogynes, toutes les religions. C'est super. La mise en scène, Christine Delmotte, qui est une Belge.
Vous rappelez le titre, juste ?
Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Au théâtre Épicène, 18h.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres conseils, oui, dans le public du site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon, madame.
Oui, alors aux chaînes noires, les clowns russes, l'Opka, c'est extraordinaire. Et je pense qu'à Avignon, il y a énormément de pièces très longues. Là, on ne dit pas un mot. Et il y a énormément de sentiments, c'est formidable.
Merci pour ce conseil, on va en prendre encore deux ou trois. Oui, sur votre droite.
Le Queneau, exercice de style, c'est au théâtre du Chien qui fume. C'est magnifique, c'est les trois acteurs, ils sont en osmose. Je ne peux pas dire, bon c'est une pièce très connue, hein, les exercices de style de Queneau, mais là c'est magnifiquement interprété. Et donc je rappelle l'heure, c'est 20h50 au théâtre du Chien qui fume.
Madame.
Bonjour, alors bonjour. C'est aussi un spectacle, un théâtre documentaire. C'est aussi un hommage aux luttes actuelles. Ça se passe également à Présence Pasteur et c'est... On n'est pas des valises, c'est la lutte, c'est un spectacle sur la lutte des ouvrières de l'usine Samsonite qui sont présentes sur scène. C'est très touchant, c'est maladroit, mais c'est super.
Allez, on en prend encore une, deux, et après, on passera la semaine prochaine. Le micro vient vers vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi, j'avais un énorme coup de cœur cette année pour un spectacle qui s'appelle Britannicus on Stage, qui joue à 20h05 au Trois Soleils. Et c'est une réécriture de la pièce de Racine, par Pierre Leric qui a créé la compagnie des Épinoirs pour ceux qui connaissent et dont moi je suis le travail depuis plusieurs années et c'est vraiment l'esprit épinoir donc il y a un esprit très cabaret, très musical, très décalé mais on garde toute l'essence de la pièce de Racine je trouve et moi c'est ce qui m'a énormément touchée voilà on rit beaucoup, on est très ému, c'est interprété par 5 jeunes comédiens qui sont exceptionnels, qui chantent et qui jouent de la musique et voilà 20h05 au Trois Soleils, Britannicus on Stage.
Monsieur.
Bonjour, c'est un spectacle qui s'appelle Boxon jusqu'à n'en plus pouvoir. C'est une pièce de Stéphane Jauberti. Et c'est à Villeneuve-en-Seine à 21h30 par le Petit Théâtre de Pain.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour. Moi, j'ai vraiment envie de vous parler des Enfants, c'est moi. Une pièce de Marie Levavasseur et de la compagnie Tourneboulet. C'est à Présence Pasteur le matin à 11h25. Et en fait, c'est vraiment un très joli spectacle, autant pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Et c'est frais, c'est bon, la comédienne est vraiment incroyable et elle est accompagnée d'un musicien qui joue avec elle et qui est tout aussi frais et incroyable. Enfin, je vous le conseille vraiment pour toute la famille.
Allez, une dernière ici, madame.
Oui, au Théâtre des Dons, c'est chez les Belges, mais enfin tant pis. Hein.
Pourquoi tant pis?
Une pièce de...
On les aime,
la musique
surtout depuis qu'on a gagné. Hein. Alors, le dernier, vraiment le dernier.
La guerre des salamandres au Festival de Villeneuve, d'après le roman de Capek, le roman tchèque.
Merci tous ces conseils. Je pense que vous allez essayer de les retrouver sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Jacques Nerson, Vincent Josse, Armel Elio, Fabienne Pascot, Gilles Costaz. Pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Aujourd'hui, sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon, il y avait à la technique, et je les remercie beaucoup, Christophe Michou, Christophe Goudin, Nicolas Depagraf, Jean-François Georges. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien que la semaine prochaine, on parle à nouveau de théâtre et à nouveau du Festival d'Avignon. À dimanche prochain, donc, sur France Inter, évidemment.